Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou, la série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 17 décembre 2024. Publication du rapport Nexus de l'IPBES. Qu'est-ce que l'IPBES ? Que contient ce rapport Nexus et quelle est sa portée? L'IPBES est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Créée en 2012, elle fournit aux décideurs des évaluations scientifiques objectives de l'état des connaissances sur la biodiversité de la planète, les écosystèmes et leurs bénéfices pour les individus, ainsi que les outils et les méthodes pour protéger et utiliser de manière durable ces ressources naturelles vitales. Sur le même modèle que le GIEC, vous savez, le groupe international des experts du climat, ce rapport de l'IPBES a réuni 165 experts bénévoles issus de 57 pays différents. De même, la validation par les 147 gouvernements membres confère à ce rapport un poids important sur la communauté internationale. Le but de ce rapport est de dresser un constat de l'état de la biodiversité, mais surtout de faire apparaître les liens avec les autres crises qui touchent l'humanité de plein fouet, climat, eau, alimentation, santé, tout en proposant une panoplie de solutions à mettre en place au plus vite. En plus du constat que le déclin de la biodiversité est avéré à toutes les échelles du monde, 2 à 6% de perte d'espèces par décennie au cours des 30 à 50 dernières années, ce rapport va donc questionner, en premier lieu, les interconnexions. Le lien entre climat et alimentation est emblématique. D'un côté, 21 à 37% des émissions totales de gaz à effet de serre sont attribuables au système alimentaire mondial. De l'autre côté, le changement climatique va lui-même affecter dangereusement la production agricole via la multiplication d'événements climatiques extrêmes et l'accentuation des stress sur les ressources en eau, notamment. Alors même que 80% de la demande en eau douce est utilisée pour la production alimentaire, dit le rapport. Le changement climatique et les pratiques agricoles contribuent au déclin de la biodiversité. Or, la biodiversité joue un rôle crucial sur la disponibilité et la qualité de l'eau douce. Les zones humides contribuent notamment à la qualité de l'eau. La dégradation de l'eau douce nuit à la santé humaine et à la production alimentaire, et la dégradation de l'alimentation aggrave encore les conséquences sur la santé humaine. La perturbation du cycle de l'eau va également à son tour affaiblir la biodiversité. Or, moins de végétation, c'est par exemple moins de carbone stocké et donc plus de réchauffement climatique. Une biodiversité affaiblie pourra également moins remplir son rôle de filtration de la pollution et donc de protection de la santé humaine. Une des conclusions de ce rapport est ainsi l'extrême nécessité de ne pas considérer les crises mondiales en silo, comme il est question avec la crise climatique, mais bel et bien de réfléchir à une approche multifactorielle où tous les éléments qui interagissent entre eux sont considérés. Une autre connexion propre à l'humanité est le lien entre économie et vivant. En effet, d'après ce rapport, plus de la moitié du produit intérieur brut mondial, soit 58 000 milliards de dollars d'activité économique annuelle dans le monde, dépend modérément ou fortement de la nature en 2023. Les prises de décision actuelles ont donné la priorité au rendement financier à court terme, tout en ignorant les coûts pour la nature, et n'ont pas réussi à obliger les acteurs à rendre compte des pressions économiques négatives exercées sur le monde naturel. Résultat, d'après le rapport, les coûts externes non comptabilisés, qui affectent l'environnement, s'élève entre 10 et 25 000 milliards de dollars par an. De même, les effets de plus en plus négatifs des crises mondiales qui s'entremêlent ont des impacts très inégaux, affectant de manière disproportionnée certaines personnes plus que d'autres.
Are you listening, Mr. President? Open your ears.
Dans un deuxième temps, le rapport propose donc l'évaluation de 70 solutions pour aider les décideurs à prendre les bonnes décisions en évitant les maladaptations. Parmi les solutions qui ont des impacts largement positifs sur les éléments du Nexus, on trouve la restauration des écosystèmes riches en carbone, comme les forêts, les sols et les mangroves. Vous savez, ces écosystèmes de littoraux en milieu tropical qui vont pouvoir amortir, par exemple, des catastrophes naturelles et qui sont composés d'arbres gigantesques qui vont avoir un rapport très particulier avec l'eau salée, vu qu'ils vont soit se protéger du sel via des systèmes naturels, soit ils vont carrément faire des petites transpirations, des gouttelettes de sel sous leurs feuilles. Ce sont les palétuviers dont je parle en particulier. Mais fin de la parenthèse. Parmi les autres solutions qui ont des impacts largement positifs, on peut retrouver la gestion de la biodiversité, tout simplement, pour réduire le risque de propagation des maladies des animaux aux humains. Ou encore les régimes alimentaires sains et durables, ainsi que le soutien des systèmes alimentaires indigènes. Prises ensemble, ces options soutiennent la réalisation des 17 objectifs de développement durable, vous savez, des cibles du cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal, une des fameuses COP sur la biodiversité, et des objectifs à long terme de l'accord de Paris sur le climat. Certains objectifs de développement durable pris isolément peuvent avoir des impacts négatifs sur les autres éléments du Nexus s'ils ne sont pas mis en œuvre correctement. C'est le cas de l'énergie éolienne en mer ou des barrages notamment. À l'inverse, les zones marines protégées qui ont associé les communautés à la gestion et à la prise de décision sont un bon exemple de solution Nexus. Ces zones ont permis d'accroître la biodiversité, d'augmenter l'abondance de poissons pour nourrir les populations, d'améliorer les revenus des communautés locales et souvent d'augmenter les revenus du tourisme. Si l'on continue le business as usual, en revanche, le rapport le dit clair et net, nous allons droit vers une catastrophe écologique à partir de 2050-2100. Comme le montrent les 186 scénarios, issus de 52 études différentes et évaluées par l'IPBES. Pour atteindre les 17 objectifs de développement durable en 2030, alors que nous ne sommes pas du tout sur la bonne trajectoire actuellement, il faut, d'après la professeure directrice du rapport Pamela McWell, abandonner nos institutions fragmentées et cloisonnées, ainsi que des politiques à court terme, contradictoires et non inclusives, pour s'orienter vers des approches de gouvernance Nexus, c'est-à-dire plus intégrées, inclusives, équitables, coordonnées et adaptatives. L'eau alimente la graine. La graine s'implante, devient végétale. Végétale sauvage et vagabond ou végétale cultivée. L'humain s'en nourrit. Tout le règne animal s'en délecte. La matière organique est redonnée, après digestion, à ce sol qui accueille l'eau. Et l'eau alimente la graine à nouveau. Que diriez-vous de tendre l'oreille à ces vagabondes qui s'établissent dans les jardins? Prenons un instant pour prêter nos sens à un récit, peut-être pas si fantastique. Le jardin des vagabondes.
Bonjour Gilles.
Bonjour Vincent. Quand j'ai acheté le terrain, c'était une friche de 14 ans d'abandon. C'était l'époque où presque tous les lieux accidentés ont été abandonnés par les exploitants. Les grosses machines agricoles sont apparues et ils ne pouvaient plus aller dans des endroits pareils. Donc je l'ai acheté, j'ai commencé à construire. Pendant quelques années, j'ai habité une sorte de tente de la mer américaine. En même temps, j'ai fait le jardin. J'ai commencé par le potager et après tout le tour, à droite, à gauche. Et c'est un terrain expérimental encore aujourd'hui, évidemment. Si tu veux, je peux te montrer.
Avec plaisir. Juste le temps que j'attrape mon carnet.
Là, le travail a consisté à enlever la terre, à gratter et à aller jusqu'à la roche mère qui est du granit. Et puis de regarder ce qui vient dessus. C'est l'idée d'avoir un non-sol. Ici, c'est plus rigolo, il y a une plante de la famille du thé, elle s'appelle Pseudocamélia. Il y a ici quelques plantes qui sont un peu rares, comme la vigne de Coigné, qui est plantée à la base de la maison. C'est une vigne chinoise, elle joue un rôle d'assainissement. Une plante comme ça absorbe probablement 500 litres d'eau par jour. La maison est saine. Alors là, très important, c'est l'arbre couché. C'est un pommier qui est tombé, j'ai jugé qu'il pouvait continuer à vivre, y compris couché. Il s'est fatigué, il a donné des réitérations. En voilà une d'ailleurs. D'après les scientifiques, chaque réitération est un arbre et chaque branche, c'est encore un arbre. Donc l'arbre, dans sa globalité, est considéré comme un ensemble d'individus, comme une colonie. C'est une autre vision de l'arbre. Alors ça, c'est la grande berce du Caucase. C'est à partir de cette plante que j'ai proposé le principe de jardin en mouvement. Là, elle fleurit, elle va faire ses graines. Les graines vont tomber, se déplacer, et elle va apparaître ailleurs. Et elle va disparaître de là, parce qu'elle meurt après avoir fait ses graines. Les graines sont transportées par le vent, les oiseaux, très loin de leur lieu d'origine. C'est le principe du vagabondage.
Le principe du vagabondage. Le jardin en mouvement du parc André Citroën.
Là, on arrive dans les vulbéas. Ce sont des plantes chiliennes géantes qui vivent très bien ici. Les orties, pour faire le purin d'ortie. Là, c'est une partie sauvage où je n'interviens pas. C'est un sous-bois. C'est le climax. C'est assez pauvre en nombre d'espèces, une dizaine maximum. Il y a des arbres morts, donc de la nourriture pour les xylophages. Cela donne des coléoptères que l'on voit voler en cette saison.
Impossible de voir des arbres morts au cœur d'une ville. Et donc aucune chance de croiser le vol d'un coléoptère. Sauf peut-être à Lille grâce à la clairière de Chablis du parc Henri Matisse.
Là, je viens d'enlever la moitié de ce hou qui était vers nous. Cela gênait pour la perception de la lumière vers ici. Cela s'est bien assombri. J'ai planté au début un peu trop. Donc aujourd'hui, il faut que j'enlève des arbres que j'ai plantés moi-même. C'est difficile. En climat tempéré, la diversité biologique est mieux représentée dans la strate herbacée que la strate arborescente. Donc on a plutôt intérêt à avoir des herbes en diversité pour attirer les insectes, les oiseaux plutôt que des arbres. C'est l'équilibre entre ombre et lumière, tout le temps, tout le temps.
La recherche de l'équilibre entre ombre et lumière, toujours. Il n'y a pas d'échelle au paysage. Il peut se présenter dans l'immense comme dans le minuscule.
Alors là, on arrive au champ. Il est hyper bizarre cette année à cause de la sécheresse. C'est un terrain expérimental de la diversité herbacée en milieu sec. Une fauche par an et un minimum d'intervention et là-dessus des comptages. Plutôt une estimation entomologique et botanique. J'ai vu apparaître le Satyrus circé qui vit dans le Midi et qui habite par là. Ça fait une dizaine d'années qu'il est là, donc il est remonté du Midi. C'est avec le réchauffement climatique, je pense. Et voilà mon radeau. De temps en temps, je mets un matelas et un parasol. Parfois, je viens dormir ou bien observer les insectes avec des jumelles. C'est un observatoire de la diversité entomologique. Bon, par exemple, cette année, je peux tirer une conclusion sur cette plante-là, qui s'appelle Verbascum migrum, qui est très très présente, c'est-à-dire que la sécheresse ne la gêne absolument pas.
C'est très intéressant pour moi, pour en tirer des conclusions, pour réaliser mes futurs jardins. À la question « qu'est-ce que le paysage ?», nous pouvons répondre « ce que nous gardons mémoire après avoir cessé de regarder ».
Ici, on arrive dans une lande boisée. Il faut imaginer qu'il y a 60 ans, toutes les côtes du lac étaient roses à l'automne. C'était plein de bruyères. Il y avait des animaux qui pâturaient les côtes, les chèvres, les moutons et quelques vaches aussi. Donc les arbres n'y poussaient pas. Donc ça, c'est une lande résiduelle, une relique, mais elle est stable. Cela n'a pas évolué en forêt. Il y a encore un petit peu de bruyère par endroit.
Au parc Henri Matisse de Lille, la clairière de la lande avec la belle couleur des bruyères et le bourdonnement des abeilles.
Quand je me suis installé, j'avais réfléchi pour avoir une énergie alternative. Le ruisseau, pas possible. Le vent, pas de vent. Donc, c'est solaire. Je ne suis pas raccordé au réseau, j'ai pas EDF. J'ai le solaire depuis 6-7 ans. J'ai ramé pour que quelqu'un veuille bien m'aider. On n'est pas aidé en France, on a des millions d'années de retard, c'est lamentable, c'est politique. J'ai fini par avoir du matériel allemand et quelqu'un qui m'aide. Pendant des années, il n'y avait que cette partie-là en pierre. Un escalier dans le vide. C'était assez intéressant. Puis un jour, j'ai dessiné le restant en fer.
Dans le parc André Citroën, étranges escaliers sans but apparent.
Voilà, nous sommes sur le perchoir.
Voir le haut des arbres comme un oiseau, comme au jardin de la Défense.
Et le potager, qui est tout petit, mais qui est très important pour moi. Ça me plaît. Les courgettes qui commencent, la roquette qui finit, L'oseille, on l'a un peu ratiboisé. Enfin bon. Et là, tu vois, je paille. Là-dessous, c'est frais, malgré la sécheresse. Et je paille énormément.
Du jardin potager naissent tous les jardins. Il traverse le temps et contient le savoir. C'est au jardin potager que tout s'organise autour d'un point central, l'eau.
Là, des tomates, courgettes, pommes de terre, des laitues. Ils sont tout petits, les poireaux. Et puis, j'ai semé une espèce de... Comment elle s'appelle, cette plante? Du Pérou. C'est marqué là. Amarante. Il a deux sortes d'amarante. À feuilles, c'est donc rouge. Ben oui, c'est ça.
Plouf.
Ah, la grenouille. C'est très important. J'étais à un moment donné en relation avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris pour la révision de certains genres coléoptères. Diurnes et nocturnes, et surtout africains. Je suis allé au Cameroun observer les papillons. Il y en a un qui porte mon nom. Le Bunaeopsis clementi. Donc c'est ici que germe toutes mes idées pour mes jardins. Que veux-tu faire, Vincent?
J'aimerais bien te dessiner dans mon carnet. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas très réussi, mais c'est assez ressemblant.
Ce qui porte un nom existera.
Un jardin en mouvement, où le jardinier est un observateur, qui compose avec et pour le vivant, dans sa plus grande diversité de formes, couleurs, textures et odeurs. Si Gilles Clément existe dans notre monde, les préceptes qu'il amène avec bon nombre de ses congénères interrogent la capacité de l'humain à vouloir comprendre avant d'agir sur les êtres qui l'entourent. Et si ce que nous créons pouvait participer à enrichir le vivant de nouvelles interactions? Luc Schutten est autant architecte que plasticien. Depuis la fin de ses études d'architecte, il dessine une multitude de projets animés par la conscience du milieu bioclimatique et des formes de vie végétale qui y évoluent. Et les modes de vie aussi que cela implique. Une manière de penser qui a donné forme à une nouvelle architecture basée sur une vision poétique où la réinvention de notre relation avec les autres formes du vivant occupe une place prépondérante. Pour lui, le dessin est avant tout un outil d'exploration des possibles à venir. Du 15 novembre au 15 janvier 2025, il expose au Musée de l'architecture à Amiens des œuvres autour de la thématique « Un monde désirable ». À travers cette exposition, Luc Schutten nous plonge dans un futur lointain en imaginant des villes nouvelles où nature et architecture ne font qu'un. Par ses travaux, l'artiste nous laisse entrevoir une vision utopique et poétique de demain, un monde désirable pour tous. Plusieurs ateliers y prennent vie pour aider notre imaginaire à s'y déployer en tant que visiteur. Le 11 janvier, par exemple, un des derniers jours de l'expo, vous pouvez ainsi tester un atelier jardin avec le collectif Les Incroyables Comestibles. Plus d'informations sur le site de la Maison de l'Architecture d'Amiens. Car si le monde est à portée de main, imaginez le modifier à l'image du vivant qui le porte pourrait commencer en tirant un trait. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une passionnée du vivant, cuisinée aux petits oignons.
Pain des landes palissandres, mes lèzes tremblent, tremblent être noyées.